Dans le but de fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.
Aujourd'hui, je reçois une femme qui s'est retrouvée parmi les 100 femmes africaines les plus influentes dans les secteurs de la chaîne d'approvisionnement, la supply chain. Certainement que vous allez vous poser des questions, c'est encore quoi? Ne vous inquiétez pas, elle est là pour nous l'expliquer. Elle s'appelle Karine Kongo. Bonsoir madame et bienvenue dans YouJob.
Bonsoir, merci.
Alors, un plaisir de vous recevoir dans cette émission, la passerelle des employés, de ceux qui sont dans le milieu professionnel. Alors ici, nous vous recevons pour parler d'un sujet aussi pertinent, la promotion de la diversité dans le métier de la logistique. Je vous ai présenté comme une femme qui évolue dans la chaîne d'approvisionnement. Vous êtes actuellement supply chain manager et vous êtes la vice-présidente de Willa RDC déjà, et vous avez été nommée parmi les 100 femmes africaines les plus influentes dans les secteurs de la chaîne d'approvisionnement. Vous êtes entrepreneur aussi, vous avez votre boîte à côté. Déjà, on va commencer par on aimerait savoir c'est quoi votre rôle, c'est quoi votre travail en tant que supply chain manager. Alors, comment vous définissez?
Oui, parce que supply chain manager, c'est un terme général. Il faudrait être beaucoup plus précis en fait. Donc je suis logisticienne d'une manière générale, mais je suis plus particulièrement consultante en achat et logistique.
Ah, c'est là que vous exercez
Voilà, c'est aujourd'hui, c'est dans ça que je travaille. Okay. Pour arriver là, je suis passée par plusieurs étapes et j'ai eu plusieurs fonctions dans le secteur de la supply chain. J'ai été responsable transport, responsable logistique, responsable import. J'ai été chef de département des services généraux, donc voilà, responsable achat.
Finalement, vous avez parcouru tous ces différents points focaux de la supply chain.
Oui, j'ai 22 ans d'expérience, donc en 22 ans, on a le temps effectivement de se balader. L'avantage, et c'est une des raisons pour lesquelles j'aime ce secteur et j'aime les métiers de la supply chain, c'est la diversité en fait des métiers. Dans chacune des fonctions que j'ai eu à occuper, certes il y avait des choses qui étaient communes, mais il y avait beaucoup de différences en fait. Et c'est ça qui est enrichissant professionnellement. Dans le secteur de la supply chain, on peut faire sa carrière en fait comme moi pendant 22 ans et ne pas faire deux fois le même métier en fait.
22 ans, c'est énorme. Et aujourd'hui, ouais, vous vous retrouvez plus dans l'achat.
Oui, parce que c'est mon petit bébé. C'est les dernières années, j'ai travaillé dans les achats, on va dire les 10 dernières années. Je me suis vraiment focalisée sur les achats au fur et à mesure. Donc, je travaille aujourd'hui dans ce domaine-là, mais je reste dans le domaine de la logistique. C'est-à-dire que je suis un peu aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler un docteur. De la logistique. C'est-à-dire que si vous avez votre entreprise et qu'il y a des dysfonctionnements, des problèmes au niveau de votre organisation logistique, vous pouvez faire appel à moi et je vais faire un diagnostic, vous ausculter et préconiser la solution, on va dire.
Alors, vous avez spécialement type d'entreprise qui vous concerne le plus ou bien vous êtes ouvert en tout cas à tous les secteurs d'activité?
Vraiment tous les secteurs, aussi bien dans l'industrie productive, quel que soit le secteur, que dans les sociétés de services. D'ailleurs, au cours de ma carrière, j'ai été dans l'industrie textile, l'industrie brassicole, mais également dans les sociétés de services, donc la banque, entre autres. Et d'autres.
Vous parcourez tous les secteurs. Oui. 22 ans, ce n'est pas peu. Hein. 22 ans, il faut rentrer en 2002. Et on voit des années, c'est énorme. Et actuellement, vous occupez le poste du numéro 2 de Willa RDC. Déjà, ouais, qu'est-ce que c'est, cette structure, cette plateforme?
D'accord. Alors, Willa RDC, c'est un acronyme qui signifie Women in Logistics Africa. Donc, les femmes dans la logistique en Afrique. Le titre dit tout, c'est-à-dire que nous sommes une organisation africaine, panafricaine, devrais-je dire, parce qu'on est présente dans 19 pays, féminine, composée à 95% de femmes, et dans le domaine de la logistique.
Pourquoi ces penchants sur la femme exclusivement ?
Pour vous faire comprendre ça, je commencerai par vous dire que vous donnez quelques chiffres en fait. Au niveau de la représentativité de la femme dans la société, d'une manière générale, hein, on est à entre 50 et 53% selon les pays en Afrique de femmes dans la société. Lorsque vous regardez au niveau des études, c'est-à-dire fin de secondaire, fin de premier cycle universitaire, on retrouve aussi à peu près ces proportions-là. C'est-à-dire qu'on est aux alentours de 53% de femmes qui passent leur examen d'État, de jeunes femmes, et idem pour le premier cycle. Étrangement, il y a une hécatombe qui se fait entre la fin des études et le début de l'emploi.
Tout à fait.
Et qui fait que dans les milieux professionnels, les femmes ne représentent plus la moitié ou un peu plus de la moitié des personnes qui travaillent en fait. Et avec Willa, on s'est interrogé justement, on s'est demandé mais pourquoi est-ce qu'il y a cette hécatombe-là ? Pourquoi est-ce qu'on passe de à peu près 50% de femmes qui ont leur diplôme universitaire, quel que soit le domaine, mais qu'on arrive à des pourcentages, comme je vous ai dit, sur le secteur de la supply chain, on est à 18% de représentation de femmes. Et en Afrique, particulièrement dans le secteur du transport, je prends le pire du pire, hein. Dans le secteur du transport, on est à 13% de représentation. C'est une étude qui a été faite sur 36 pays d'Afrique, sur les 54. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on arrive à des pourcentages comme ça ? Et quand on a considéré ça au niveau de WILA, justement, on s'est dit que les solutions à apporter à ça, d'abord, c'était d'informer, de sensibiliser sur notre secteur, sur les opportunités de carrière qui existaient dans notre secteur, sur l'intérêt de travailler dans notre secteur également. Enlever l'image que les gens avaient du fait que la logistique, c'est un métier d'homme. Voilà, c'est un métier d'homme et que les femmes n'ont rien à faire dans ce secteur-là. Voilà, c'est tout ça qui a amené à faire qu'on se concentre spécifiquement sur les femmes. Mais bien sûr, des hommes participent aux activités que nous faisons. Ils sont juste minoritaires, c'est tout.
Alors, avant de parler de l'historique, c'est depuis quand et puis c'est qui l'initiatrice, comment ça a vu le jour, j'aimerais revenir sur les préjugés ou bien la culture que nous avions, parce qu'aujourd'hui ça change, les secteurs, les domaines de logistique, c'est plus pour les hommes. Pourquoi cette vision de choses ? Parce que c'est un secteur qui demande plus d'activité physique ou c'est d'autres raisons ?
Il y a 30 ans, oui. Il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, oui. C'était un métier. C'était essentiellement des métiers très physiques. Quand on parle de transport, quand on parle de gestion d'entrepôts, il fallait porter de lourdes charges, etc. Donc, effectivement, c'était. Les différents métiers étaient des métiers physiques. Mais avec le développement des technologies, avec l'accession des femmes à l'éducation, on ne peut plus aujourd'hui parler de métier spécifiquement pour hommes, en fait.
Mais nous sommes en Afrique, et il y a aussi ces problèmes d'ordre logistique qui s'y posent. Est-ce qu'il y a assez de ces matériaux, par exemple, pour nos entreprises ici, afin de permettre aux femmes, bien sûr, d'exercer facilement leurs activités à côté de tous ces poids qu'il y a
Oui, ça, c'est une spécificité qu'il y a ici en Afrique. Par rapport à notre, je dirais, degré de développement économique et puis de l'organisation logistique ou supply chain dans son ensemble. Néanmoins, aujourd'hui, ce n'est plus le cas, en fait. Aujourd'hui, l'éducation qui est à la portée de tous, ça veut dire que n'importe qui peut se former, homme, femme, quel que soit le sexe, tout le monde peut se former aujourd'hui à la supply chain, à la gestion à la gestion d'entrepôt, aux achats, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la technologie nous permet aujourd'hui de pouvoir transporter de lourdes charges sans que ce soit nous qui les transportions physiquement. C'est-à-dire qu'on a des équipements, des engins, des outils qui permettent de le faire. Et de ce fait...
Et Huila dispose quand même d'outils qu'il faut.
Disons que Huila a une mission non pas de former sur des outils spécifiques, mais nous travaillons avec effectivement des partenaires, okay, qui sont des centres de formation ou même voir certaines entreprises qui, elles, ont les outils et l'équipement.
Ah oui, ça c'est parfait. Alors, Huila existe depuis quand? Comment vous vous êtes développé?
Huila a été créé il y a 3 ans.
À peine.
Étonnamment, oui.
Non, mais vous êtes déjà dans plus de 10 pays africains.
On est dans 19 pays. C'est... Voilà. Alors, Huila a été créé fondé il y a trois ans par Christiane Ouin Traoré, qui est une cadre dans le secteur de la logistique, justement. Notamment, à cette époque-là, elle était dans le transport maritime. Et elle a créé cette organisation suite au constat dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'elle a fait par rapport à la représentativité de la femme dans notre secteur. Et depuis 3 ans, beaucoup de femmes se sont jointes à elle, puisque le réseau compte un peu plus de 600 membres qui sont répartis dans 19 pays. Les deux derniers pays étant, cette année, on a ouvert au Mozambique, il me semble, et en Algérie.
C'est quoi les secrets de ce développement rapide? Parce qu'en 3 ans, vous êtes déjà dans 19 pays, c'est énorme.
Moi, je dirais que c'est parce que c'est un sujet qui est d'actualité et qui correspond à un besoin, en fait. Aujourd'hui, avec le secteur de la supply chain, on est dans un secteur qui est stratégique pour le développement économique de nos pays africains. On peut difficilement se dire qu'on va pouvoir vendre nos produits, ne serait-ce que à d'autres pays africains ou même en local, sans avoir en fait un secteur supply chain qui soit performant, en fait. Donc c'est un secteur stratégique. Deux, c'est un secteur qui souffre d'une forte pénurie de main-d'œuvre. Et se dire que on a un réservoir en fait de main-d'œuvre potentielle qui sont là, qui sont les femmes, mais qui ne sont pas utilisées parce qu'elles ne connaissent pas le secteur de la logistique, parce qu'elles se disent que c'est un secteur pour hommes et qu'elles ne sont pas capables physiquement d'accéder à cela. Donc pour toutes ces raisons-là, en fait, je pense que beaucoup de femmes rejoignent Huila. Et puis, il faut rajouter ensuite le fait que quand on évolue dans ce secteur, c'est un secteur où il y a beaucoup de, je dirais, de... Je ne veux pas parler négativement parce que moi j'ai une vision très positive de notre secteur en dépit du fait que les femmes sont sous-représentées, mais c'est vrai qu'on doit faire face à une certaine résistance. Il y en a de moins en moins, heureusement, mais voilà, il y a 20 ans par exemple, on était très paternaliste avec moi quand j'allais en entretien. Voilà, on m'appelait madame, on me chouchoutait un peu parce que j'étais une femme dans le secteur du transport.
Ça, c'est vrai. Et la réalité essaye de changer grâce notamment au travail de Huila.
Exactement.
Et certainement, beaucoup emboîtent aussi les pas, mais en 3 ans, c'est énorme. Alors vous, c'est plus de 20 ans, c'est depuis plus de 20 ans que vous êtes dans ces secteurs. Comment vous vous êtes retrouvé là? Alors que vous l'avez d'ailleurs soulevé, il y a 30 ans, il y a 20 ans, la situation était vraiment différente.
Alors, je suis tombée dans la supply chain en dernière année de l'école de commerce que je faisais en France. J'étais étudiante, je me destinais à être plutôt bancaire. Et puis, au fur et à mesure des stages professionnels que j'ai faits tout au long du début de mes études, je m'étais rendu compte que ce n'était pas trop pour moi la banque. Je trouvais ça ennuyeux. Voilà. Je dis pas ça, bon, je ne m'attaque pas. Finalement, j'ai travaillé dans une banque. Donc,
c'est sans rancune.
Voilà, voilà. Et... c'est sans rancune. Mais voilà, c'était pas fait pour moi. L'aspect commercial, pas trop. Donc, je savais pas trop ce que j'allais faire. J'étais en dernière année. Et puis, je tombe sur ce module logistique et international. Je me dis, bon, Je sais pas ce que c'est. Ça va m'occuper. Je vais découvrir.
C'était juste beau.
Un nouveau truc. Voilà, il y avait international dedans. ça sonnait plutôt bien. Donc, et voilà, j'ai suivi ce module et ça a été vraiment la révélation, quoi. J'ai découvert en fait un secteur d'activité avec tellement de diversité dedans, tellement de métiers intéressants qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. J'ai découvert que en fait, et je l'ai confirmé dans la suite de ma carrière, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment, je veux dire, passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un métier à l'autre. Tout au long de sa carrière, se dire voilà, je vais faire 5 ans dans tel métier, puis après je vais évoluer vers tel autre. C'est possible en fait en supply chain. C'est tout à fait possible de faire 30 ans, 40 ans même. Hein. J'espère bien faire toute ma carrière. Continuer dans la supply chain jusqu'au bout à 60 ans et tout.
On voit cette passion, mais cette passion, ces goûts, s'est développé aussi au départ parce que vous étiez en France. Alors l'écosystème est différent. Quand vous êtes arrivé en Afrique, la réalité est différente. Qu'est-ce qui a finalement changé? Qu'est-ce qui a changé dans votre manière de voir les choses?
Alors rien n'a changé. J'ai toujours autant de passion pour le secteur. C'est juste que ici en Afrique, je suis ici depuis 11 ans, on est dans un contexte différent. La place qui est donnée à la supply chain dans l'entreprise est très différente en Occident et ici en RDC. Je ne peux pas parler d'Afrique parce que je n'ai pas travaillé dans tous les pays d'Afrique, mais du moins en RDC, c'est très différent. Aujourd'hui, au niveau de l'organisation de la fonction dans les entreprises, la supply chain, en fait, à part dans les entreprises qui sont dans la logistique de distribution, de prod et de distribution, comme par exemple la brasserie, etc., où les directeurs supply chain sont cœur de métier, en fait. Ils sont vraiment...
C'est vraiment une activité voilà, c'est, au centre de
au centre de l'activité. En dehors de ces secteurs d'activité-là, on a malheureusement en fait des la fonction est placée sous d'autres fonctions. C'est placé au niveau des RH, soit c'est placé au niveau des finances. Moi, je trouve que ce sont des aberrations, tout ça. Soit c'est placé au niveau des finances, soit on va le placer au niveau des opérations. Mais jamais, en fait, on va donner à cette fonction qui a un impact sur les résultats de l'entreprise, un impact direct. Je veux dire, la manière dont dans tout produit que vous achetez, le transport et la logistique, ça représente peut-être 60-70% du coût du produit que vous achetez.
Absolument.
Donc, ça a un impact direct sur le bilan, mais ça ne se voit pas, en fait, au niveau de la considération qui est donnée à la fonction ici en RDC, où vous n'avez que... À part dans les sociétés, comme je l'ai dit, dont c'est le cœur de métier, vous ne retrouvez pas au niveau des comités de direction les directeurs ou responsables supply chain, ce qui est...
C'est encore un grand travail qu'il faut faire pour finalement avoir cette considération au sein des entreprises. Et est-ce que c'est un problème des enjeux?
Ça fait partie des enjeux, en fait. C'est même pas que c'est un problème d'enjeux, c'est que ça fait partie des enjeux. Dans notre secteur, aujourd'hui, les enjeux auxquels on doit faire face et auxquels on devra faire face dans les années, il y en a énormément. Mais essentiellement, effectivement, la place que prend la fonction au sein des entreprises, la représentativité des femmes, mais aussi les infrastructures. Par exemple, vous avez... Le manque d'infrastructures routières qui empêche en fait ce secteur de se développer à son plein potentiel. Vous avez le coût du transport qui est un des enjeux importants auxquels on doit faire face, ou même le prix du carburant.
Absolument, voilà. Absolument. Mmh. Et ça freine quelque chose quelque part. Alors, parlons des diversités dans le métier des logistiques, est-ce qu'il y a un certain équilibre quand même aujourd'hui entre les hommes et les femmes? C'est vrai que la question fait sourire.
Oui. On va vers cet équilibre. Ce qu'est, comme je l'ai dit en passant tout à l'heure, ce qu'est la représentativité aujourd'hui n'est pas ce qu'elle était hier. Simplement, il faut qu'on fasse attention dans ce processus où les femmes sont de plus en plus présentes dans ce secteur. Il ne faut pas qu'on se cache derrière des emplois genrées ou des affectations genrées. Qu'est-ce que j'appelle ? Ou stéréotypées. C'est-à-dire qu'on va retrouver... C'est vrai qu'il y a des secteurs où il y a énormément de femmes. Mais on les retrouve, en fait, dans les mêmes types d'emplois. Vous allez les retrouver dans l'administration.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire que la société compte 1000 employés. Sur les 1000 employés, il va y avoir 15% de femmes seulement, par exemple 150 femmes. Et sur les 150 femmes, il y en a peut-être les deux tiers qui vont travailler dans les RH, dans les fonctions. Voilà, exactement. Ou alors dans les achats. Parce que ça aussi, c'est un stéréotype. Il y a énormément de femmes, comme c'est un boulot entre guillemets,
oui,
qui n'est pas physique,
etc.
Et puis on se dit que ça va avec la personnalité de la femme, etc. De négocier. Voilà. Alors, il faut éviter ça, en fait. Il faut vraiment donner l'opportunité aux jeunes filles qui veulent être conductrices d'engins, qui veulent être chefs de quai, etc., de pouvoir faire ces métiers-là également.
Donc, on sent qu'il y a un certain avancement, mmh. notamment par rapport à la promotion de la femme mmh. dans ces domaines. Mais est-ce que ce secteur est bien exploité quand même ?
Très bonne question. Est-ce que le secteur est bien exploité ? Dites-le-moi autrement.
Alors, est-ce que par rapport à d'autres pays, vous avez évolué mmh. dans notre pays sous d'autres cieux par rapport à, on parle même des écosystèmes, des contextes, tout est mis en place, et du côté des entreprises et du régulateur et même de prestataires, est-ce que par rapport à notre pays aussi, quand même tout est bien mis en place en termes d'activité ?
Je dirais que dans notre pays, au niveau réglementaire, souvent, les choses sont bien faites.
Mais l'application ?
Voilà, c'est au niveau de l'application et du suivi et du fait d'imposer l'application de cette réglementation-là qu'il y a un souci. Mais au niveau réglementaire, oui, il y a des conventions, il y a des lois, notamment dans le domaine des ressources humaines. Je ne suis pas une spécialiste de la ressource humaine, mais voilà, on a un cadre réglementaire qui est là, qui existe. Voilà, il faut juste qu'il soit appliqué.
Donc, il y a un problème d'application. Mmh. Et c'est là où vous handicapez quelque part.
D'une manière générale, oui, forcément, parce qu'on laisse ça à la décision, en fait, des individus. Au lieu que ce soit une organisation une entreprise ou une société qui donne des règles par rapport à la manière d'embaucher, de former, de promouvoir, etc., les femmes, ben c'est laissé à l'évaluation, en fait, de la personne qui est en poste à ce moment-là, et c'est dommage, en fait. Parce que le cadre réglementaire est là. Il faut juste s'assurer au niveau des entreprises que ces cadres réglementaires sont appliqués. Et on a beaucoup d'entreprises qui sont pilotes et qui mettent en place justement des choses pour s'assurer que le respect de la représentativité, etc., se fait. Et ça, dans tous les secteurs.
Parlant d'ailleurs de la représentativité, est-ce que vous nous confirmez que les femmes s'intéressent à ces métiers de logistique ? Vous avez mis en place toutes ces activités pour les approcher avec Willa. Est-ce que vous sentez les femmes être intéressées, concernées ?
Oui. Oui, justement, c'est une des raisons pour lesquelles Willa se développe aussi vite. C'est qu'il y a un intérêt. Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure avec Willa. Maintenant, je pense qu'il faut juste leur apporter l'information et qu'elles puissent découvrir le secteur d'activité.
Alors, plus de 90% dans l'effectif des Willa, c'est des femmes. Alors, est-ce que ce n'est pas discriminatoire ? Comment vous vivez la concurrence avec les hommes dans ces secteurs ? On doit parler des compétitions ou finalement, c'est une bataille, là ?
Vous avez parlé de deux choses.
Oui.
Vous m'avez demandé, un, est-ce que c'est discriminatoire ? Et ensuite, vous m'avez parlé de la compétition entre hommes et femmes. Alors, est-ce que c'est discriminatoire ? Moi, je dirais non, parce que ça vient compenser, en fait, et puis à si faible échelle. Ça vient compenser, en fait, un manque qu'il y a dans le secteur. Donc non, ce n'est pas discriminatoire. Au contraire, nos activités sont ouvertes aux hommes aussi. Hein. Quand on fait une conférence, par exemple, au mois de novembre, on va avoir notre conférence sur la mobilité urbaine, qui est un vrai problème ici en RDC, comme dans beaucoup de pays. Eh bien, on ne va pas juste prendre des professionnelles femmes pour venir réfléchir dessus. C'est, on va, disons, travailler avec des professionnels, des experts du secteur, qui sont également des hommes, sans distinction de sexe, de genre. Donc non, nous ne sommes pas discriminatoires. Après, vous parlez de
la compétition.
Moi, je ne pense pas qu'il faille voir ça en termes de compétition ou de bataille. Parce que la connotation qu'il y a derrière ces deux termes, je trouve, elle est assez négative, en fait. Même pour la compétition, c'est négatif. Je pense qu'il faut qu'on parle de complémentarité. De par l'éducation qui est donnée aux femmes, peut-être, je ne sais pas, dans nos différentes sociétés, elle développe, en fait, un leadership et des capacités de management qui sont parfois négligées par les hommes. Ce qui fait qu'il y a un leadership au féminin qui est en train de se préciser et de se développer. Moi, pendant ma carrière, on m'a souvent reproché par mes collègues hommes d'être trop douce, d'être trop à l'écoute, d'être trop empathique, que c'était pas bon. Mais justement, si j'ai obtenu les résultats que j'ai obtenus de mes équipes,
c'est notamment
au fur et à mesure des années, c'est grâce à ça. Donc je pense que il faut laisser les femmes développer un autre type de management et de leadership qui viendra en complémentarité avec ceux que les hommes ont implémenté depuis des années.
Mais après, c'est
pas
toutes les femmes qui sont douces. Hein. Il y a des femmes encore plus rigoureuses, par exemple. Et donc, mais c'est une...
rigueur ne s'oppose pas à la douceur. Ouais, on peut être doux et rigoureux. Moi, je suis douce et rigoureuse.
Ok, voilà, alors donc. faire ces mélanges-là, je trouve que c'est la meilleure des choses. Alors, si on est... Ouais. Moi, je ne vois pas pourquoi ça dérangerait les autres si on est en même temps doux et rigoureux. Hein. Là, alors, maintenant, moi, je me mets derrière vous. Je me mets de votre côté. Alors, ça, c'est... On a parlé des complémentarités parce qu'il y a certaines qualités naturellement qu'on retrouve chez les femmes.
Oui, des capacités d'organisation, une propension à l'écoute et à l'empathie. Que peut-être on n'encourage pas dans l'éducation d'un homme, en fait.
Alors, donc, quand on n'est pas d'accord avec être doux ou être empathique, alors on veut être apathique. Et là aussi, c'est, c'est compliqué. Alors, comment vivez-vous quand même toute cette expérience? Doit-on dire que la supply chain, c'est limite qu'à la logistique de distribution essentiellement? Parce que vous avez dit, c'est quand même plusieurs départements. Mais ici, au niveau de la République démocratique du Congo, est-ce que tous les départements sont exploités ou il y a encore certains départements sont aux oubliettes ou peut-être même pas encore à la découverte?
Oui, par exemple, on a les moyens généraux, les services généraux qui font partie des fonctions de supply chain, hein, qui sont présents dans quasiment toutes les entreprises, parce que toute entreprise, par exemple, vous ici, vous avez besoin de bureaux, de micros, vous avez besoin qu'il y ait du courant, vous avez besoin qu'il y ait de la clim, etc. Donc, même pour fonctionner, en fait, vous avez besoin de certaines choses que la fonction vous apporte, en fait.
Oui.
C'est malheureusement ce qu'on remarque en RDC, du moins, c'est que ces fonctions-là, elles ne sont pas valorisées à leur juste titre. On a tendance à apprendre sur le tas ou apprendre des gens qui vont apprendre sur le tas ou qui ont appris sur le tas. On ne se dit pas que c'est non, c'est une fonction, les moyens généraux par exemple, c'est une fonction professionnelle. Il faut des gens qui sont experts, qui ont été formés. Il y a des outils précis de management qui sont propres à ce domaine-là. Il y a des outils, non pas seulement de management, etc., mais informatiques qui sont spécifiques. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est que tout comme les achats, tout comme le transport, etc., effectivement, on prend pas forcément des pros, on prend pas forcément des personnes qui ont été formées dans le domaine. On se dit que c'est un domaine facile,
C'est encore vraiment moins considéré à sa juste valeur.
Voilà.
Et après, on parle aujourd'hui aussi de certains acteurs qui sont considérés comme des acteurs clés. Des acteurs clés actuellement dans notre pays. Quels sont les acteurs clés en ce moment dans ces secteurs, dans notre pays, même si c'est vrai qu'il y a encore certains secteurs et qui ne sont pas assez exploités.
Je dirais que les acteurs clés, on a à tous les niveaux. Il y en a au niveau de, je dirais, de la production avec les fonctions appro et achat. Il y en a au niveau de la distribution. Vous avez parlé de la logistique de distribution tout à l'heure, avec toutes les fonctions transport, etc. Il y en a au niveau de l'entreposage. Il y a bien sûr les sociétés qui cumulent l'ensemble
de toutes ces activités.
De ces activités-là. Il y a tous les acteurs clés, notamment il y a tout ce qui est informatique et nouvelles technologies pour accompagner justement la gestion de toutes ces activités logistiques. Ce sont aussi des acteurs clés.
Ok, donc quand même on le retrouve dans tout le secteur et ça, il n'y a pas en tout cas un certain point qui prend de la place, plus de l'ampleur par rapport à d'autres. Alors parlons de Willa qui organise des actions, vous avez des actions que vous menez pour promouvoir l'intégration de la femme dans la supply chain. C'est quoi ces activités concrètement aussi?
Nous avons en fait, je dirais, deux types d'activités. S'il fallait classifier nos activités, je dirais qu'on a deux types d'activités. Le premier type d'activité, c'est purement professionnel pour donner plus de compétences, que ce soit en soft ou en hard skills, pour informer sur le métier, également pour, je dirais, donner une meilleure connaissance, sensibiliser, etc. Donc, ce type d'activité-là, ben, on en a plusieurs. On a un programme qu'on appelle les caravanes pour les métiers de la logistique, où au lieu de faire... Vous savez, dans la plupart des écoles, on organise des forums métiers. C'est-à-dire que vous avez des professionnels qui viennent dans les écoles pour parler des différents métiers qui existent. Et effectivement, on aurait pu choisir, comme d'ailleurs certaines représentations WILA le font dans leur pays, de faire des forums métiers dans les écoles, ou en dehors d'ailleurs. Mais on n'a pas voulu agir ainsi. En fait, on s'est dit... soyons pragmatiques en fait. Soyons pragmatiques. Prenons ces jeunes, amenons-les dans les entreprises et donnons-leur l'opportunité de voir ce qu'est dans la réalité un métier. C'est-à-dire que moi, je suis consultante en achat. C'est bien, je peux expliquer mon boulot. Je peux aller dans une école, dans un forum, dire voilà, être consultante en achat et logistique, c'est ça, 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 ça. Mais ça reste assez théorique en fait. C'est un concept, etc., que certains vont bien appréhender, d'autres pas.
Mais alors que quand on les prend, lorsqu'elle s'insère,
voilà, je leur dis venez avec moi et que je leur montre mon travail. Que je leur dis comment je commence, comment ça finit, les processus, etc. Ben, tout d'un coup, ça devient quelque chose de réel pour eux.
Ça marche avec des stages?
Ça ne marche pas avec des stages. Lors de la caravane, en fait, les étudiants découvrent la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise. Donc, c'est différent dans un hôpital, que dans une ONG, que dans une banque, que dans une société industrielle, etc. Donc déjà, ça leur permet de comprendre le distinguo entre ces différentes chaînes d'appro. Au-delà, les stages, en fait, nous, notre position, c'est pas de donner des stages aux gens, parce qu'on n'a pas de stage à donner aux gens au niveau de WILA, mais c'est avec les entreprises partenaires, en fait, dans le cadre de notre programme de mentorat, c'est effectivement de donner cette première opportunité d'emploi professionnel aux jeunes. Donc ce programme de mentorat, ici en RDC, on va le lancer dans quelques mois, d'ici un mois et demi.
Qu'est-ce qu'il faudra déjà pour participer?
Alors, d'abord, à quoi consiste le programme de mentorat? Donc, le programme de mentorat, c'est que pendant 5 mois, 6 mois maximum. Les étudiants, 25 étudiants vont être en stage dans des entreprises et ils vont être accompagnés par des mentors qui sont dans ces entreprises-là. Parce que l'objectif, c'est vraiment de les amener à appréhender en fait le monde de l'entreprise dans le secteur de la supply chain. Donc, on ne veut pas les laisser juste leur trouver un stage et puis les balancer dans le stage sans qu'il n'y ait personne pour les aider, les conduire, les guider. Mais ils ont un mentor au sein de l'entreprise. C'est un responsable, un directeur, un responsable de département ou de service qui est là pour les orienter professionnellement. Et puis, à côté de cela, au sein du programme, en fait, on a prévu des activités. Ces activités, l'objectif, en fait, c'est de combler le gap qu'il y a entre l'idée que le jeune se fait de l'entreprise et ce dont il a réellement besoin une fois qu'il est dans l'entreprise. Je vais m'expliquer. Lorsqu'on est jeune, par exemple, on se dit que voilà, je viens de terminer d'avoir mon diplôme, ma licence, mon master. J'ai pas besoin de me former plus que ça, en fait. Je veux dire, je peux rentrer dans l'entreprise, commencer à bosser. Et puis, pendant quelques années, avant d'envisager, en fait, de me former. Et nous, ce qu'on veut, justement, c'est les amener à comprendre que dès le départ, non, en fait, il faut... La formation fait partie. On doit avoir dès le départ un plan de carrière, une idée de ce qu'on veut faire à 5 ans, à 10 ans, comment on va y arriver, de quelle formation on va avoir besoin tout au long de ces 10 ans, en fait, en commençant par cette première année. Donc, que la formation fait partie de leur développement personnel, professionnel. Il y a des activités qui vont tourner autour de l'intelligence financière, comment gérer son argent quand on est jeune. On n'a jamais eu de boulot avec un salaire, etc. Et boum, on se retrouve dans un stage où on est plutôt bien payé et on dépense. C'est le réflexe, géré. Voilà. Donc, l'intelligence financière, on va parler de prise de parole en public, on va aborder avec eux la gestion du temps et des priorités. Ce sont des soft skills dont ils ont besoin afin de bien, de mettre un bon fondement, en fait, à leur carrière professionnelle. Et toutes ces activités-là vont se faire pendant cette période de mentorat. On va les accompagner sur la recherche d'emploi. Comment faire un CV, etc. On va les accompagner sur la découverte, donc la participation à plusieurs caravanes. Donc c'est un programme très complet qui dure 5 mois.
5 mois.
5 mois. Voilà. Comment y participer ? Cette année, nous avons fait le choix de choisir 4 établissements. 4 établissements. Avec lesquels nous allons travailler pour ce programme de mentorat. Donc nous avons visé 2 établissements qui ont un cursus dans le domaine de la logistique, achat ou logistique transport, en l'occurrence le SMK et ISS. Les discussions sont en cours, on n'a pas encore terminé sur les modalités, etc., mais c'est en cours. Nous avons choisi également un cursus plus général, donc on est en train de discuter avec l'UPC. Et le 4e établissement, en fait, c'est un établissement de formation professionnelle parce qu'on s'est dit que tout le monde n'est pas universitaire, etc. Il faut aussi donner leur chance à des apprenants qui ne sont pas au niveau universitaire mais qui ont besoin de cet accompagnement-là. Et puis, donc, si vous faites partie, je lance un appel.
Ces établissements, ils peuvent s'inscrire.
Voilà. Surtout, n'hésitez pas à contacter Willa sur nos réseaux et... On vous expliquera
vous
comment
attendrez,
participer.
Vous attendez quand même un effectif de combien de participants ?
Alors, on a visé 50, sur lesquels on va en sélectionner 25. Maintenant, je ne sais pas combien de personnes vont postuler, peut-être 100, 200, on ne sait pas encore.
Après, il faudra passer au tri. J'espère que c'est clair et ils comprennent. Donc, c'est une opportunité de vivre comment ça se passe, puisque la théorie est très loin parfois de la réalité. Et quand vous allez, vous voyez, ce sera une très bonne chose. Donc, il y a encore quelques mois où c'est déjà maintenant que les inscriptions vont commencer. Et le programme, c'est pour l'année prochaine, cette année ?
Non, le programme est pour cette année. C'est pour le 2e semestre. On est juste en train de finaliser les négociations et la mise en place avec les établissements et les entreprises. parce qu'il y aura des entreprises partenaires dans lesquelles ils vont faire leur stage.
Ça, c'est bien. Alors, est-ce qu'il s'il faudrait retenir quelque chose de ces vastes domaines, bien qu'encore moins bien exploités dans notre pays, de supply chain, qu'est-ce qu'il faudrait dire ?
Il y a de la place pour tout le monde. En fait, la particularité de la supply chain, c'est que ça peut convenir à tout type de profil. On peut avoir un profil plutôt mathématique, rationnel, etc., ou être quelqu'un de plutôt imaginatif, créatif. C'est pas parce qu'on est mathématique qu'on doit uniquement se diriger vers les finances, et c'est pas parce qu'on est créatif qu'on doit forcément aller vers le marketing ou la communication. Avec la supply chain, on peut trouver tout ça, parce que les fonctions, les métiers qu'on retrouve dans notre secteur sont nourrissants professionnellement, en fait.
Et tous ceux qui se disent que je répare, en tout cas dans la logistique, est-ce que là, il faut plus d'activité physique en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça qu'il faudrait toujours le voir.
Il ne faut surtout pas voir les choses comme ça.
Ouais. Ça, c'est bien. On va passer à l'étape des confessions. Juste quelques petites questions. Nous confesser par rapport à vos expériences professionnelles. On aime bien des inédits et des exclusivités, je pense, pour nos auditeurs. Merci à vous qui nous suivez depuis les débuts de l'émission. Aujourd'hui, j'ai en tout cas l'honneur de recevoir une dame qui vous-même vous avez suivi tout au long de l'émission et vous avez senti comment elle explique ses domaines de supply chain, mais surtout elle est elle-même aujourd'hui, en tout cas, plus dans les achats. Alors, confession, vous êtes prête ?
Ok, allons-y.
Alors, on est plus curieux de connaître votre pire expérience professionnelle. 22 ans, c'est énorme. 22 ans, en 22 ans, il se passe beaucoup de choses, énormément. Alors, c'est quoi la pire expérience aujourd'hui dans votre vie professionnelle ?
Alors, la pire expérience, c'est aussi celle qui m'a le plus, je dirais, formée. C'était au sein d'une entreprise de services où, entre autres choses, je devais réorganiser la fonction logistique au sein de l'entreprise. Et notamment, je devais mettre en place la centralisation des achats. Parce qu'auparavant, dans cette entreprise, en fait, les achats se faisaient par un peu tout le monde. Donc, il fallait centraliser les achats, mettre en place les procédures, former le personnel, etc. Donc, ça a été au niveau de la... En quoi c'était difficile, ça a été au niveau de la résistance, en fait, que j'ai rencontrée.
C'est une autre logique, une autre culture.
Autre manière de voir les choses, enfin, ça à tous les niveaux, à tous les niveaux, en fait. C'était vraiment une pression H24.
Quand pour dire qu'on ne peut pas évoluer dans un milieu où on n'est pas mis à l'aise.
Si, on peut évoluer, justement. Moi, en tout cas, je me suis épanouie dans ce...
Bien que c'était pénible.
Bien que ça ait été pénible et difficile, je me suis vraiment épanouie, en fait, dedans, parce que ça m'a forcé à aller au-delà de mes capacités, à supporter plus que ce que j'avais l'habitude de supporter, sortir de ma zone de confort, aller au clash, ce qui n'est pas dans ma nature. Mais aujourd'hui, je peux dire que voilà, le clash, je ne l'évite pas. Quand on veut clasher, on vient, on clash, et après on fait les choses bien ensemble.
Et pire expérience, mais qui a eu un impact positif.
Voilà, un impact très positif sur moi.
Alors, votre meilleure expérience, à côté de ce qui est pire, il y a ce qui est aussi meilleur.
Justement, c'est de cette expérience-là, j'ai tiré beaucoup de satisfaction dans le fait que ça m'a permis, en fait, d'avoir un impact sur les équipes. L'image qu'on se fait des moyens généraux, c'est qu'en gros, c'est un secteur où on met tous les bras cassés de la boîte. Voilà, on ne sait pas où mettre quelqu'un. Oh, bon, balancez-le en logistique. Ouais, bon, en gros,
vraiment,
c'est un peu ça.
Vraiment.
Et du coup, il y a une forte dévalorisation, en fait, de la part des personnes, même des hommes, hein, je veux dire, de celui qu'on envoie là-bas. Il sait qu'on l'envoie là-bas parce qu'il n'est pas performant. On ne veut pas le virer parce qu'on n'a pas de motif de le virer. Mais en gros, on le met là comme une punition. Et c'est pas valorisant pour la personne qui rejoint ce département. C'est pas valorisant par rapport également aux collègues. C'est-à-dire qu'on sait que si t'es là dans ce département-là, c'est que ou t'es un copeur, ou t'es un bras cassé, ou voilà. Et là, en fait, j'ai eu à beaucoup travailler avec les équipes sur la revalorisation, en fait. Du travail qu'ils faisaient je les ai formés comme on n'avait pas de budget pour prendre des formations en extérieur, moi-même je faisais les formations, je passais beaucoup de temps en fait j'ai mis en place un management participatif où je tenais compte des propositions qui étaient faites par les équipes. Vraiment, j'ai cherché à mettre cette culture-là. Et ça, c'est ma plus belle expérience, je dirais.
Ouais, je vois comment il faut travailler pour donner à un agent, un travailleur, un collaborateur de la confiance surtout.
Oui, de l'estime après, de soi et du travail qu'on peut faire. Ouais.
Alors, quelle est cette compétence professionnelle? Quelle est votre compétence professionnelle que les autres apprécient, mais dont vous-même, vous n'en êtes pas vraiment fier?
Alors, je suis fière de toutes mes compétences. Hein. Je suis fière de toutes mes compétences parce que je les ai acquises soit par le travail, soit par la disposition, soit en payant, en me formant. Je suis fière de toutes les compétences que j'ai acquises, mais je pense que celles que les gens apprécient le plus, l'écoute.
L'essence de l'écoute, vous êtes souvent à l'écoute.
L'écoute, oui, parce que en fait, de l'écoute va découler beaucoup de choses dans la mise en place de ce qu'on veut faire. Ça permet, l'écoute permet déjà, un, de savoir qui est celui qu'on a en face de soi. Deuxièmement, ça montre à celui que vous avez en face de vous que vous êtes disposé à écouter ce qu'il a proposé. Ça lui donne plus de confiance en lui-même. Ça lui permet de sortir lui aussi de sa zone de confort et d'être force de proposition, ce que les gens ne sont pas en général ici, parce qu'on se dit que voilà, le chef va parler, on écoute ce que le chef dit, on fait ce que le chef a dit, point barre.
Alors qu'il peut se tromper
voilà,
aussi.
Voilà, exactement. En écoutant et en mettant en pratique ce qu'on a entendu, on fait comprendre aux gens aussi que voilà, on peut être chef, mais pas forcément celui qui a la science infuse sur tout, on sait tout sur tout et on ne tient pas compte de la vie de l'autre. Voilà, l'écoute, c'est un grand secret.
Alors, je pense que c'est ici d'ailleurs qu'on va se quitter. Alors, une dernière question. Comment vous voyez-vous aujourd'hui sur le plan professionnel il y a 10-15 ans?
Alors, je m'imaginais soit DG... Je m'imaginais DG d'une grosse boîte ou alors avoir ma propre entreprise parce que j'ai commencé par l'entrepreneuriat, mon expérience, ma carrière professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai 50 ans et j'espère bien faire les 10-15 dernières années professionnelles dans l'entrepreneuriat également. Je dirais que je suis à peu près là où je pensais que je serais. C'est juste que le pays, je ne pensais pas que ce serait en RDC. Voilà.
Donc une aventure positive, satisfaite de votre parcours, en tout cas en 22 ans. Et c'est un an. Alors comment vous voyez dans 5 ans?
Dans 5 ans, je serai certainement dans Willa ou ailleurs. Hein. Mmh. Je serai certainement en train de faire de la transmission de compétences et aider les gens, les jeunes générations, en fait, à se lancer dans le professionnel, pas forcément la logistique d'ailleurs, mais bon, dans l'entrepreneuriat ou la carrière professionnelle.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est ici que notre émission d'aujourd'hui se termine. Alors, vous vous êtes posé beaucoup de questions après qu'on ait partagé la thématique du jour. Je pense que vous avez vos réponses. Vous pouvez continuer à écrire sur nos réseaux sociaux, même dans notre groupe WhatsApp. Vous pouvez visiter donc notre page Urban FM ou suivre également l'émission en podcast. Et si vous, il y a quelque chose qui vous a échappé, c'est les directs, oui. Mais vous pouvez également retrouver l'émission sur Spotify. YouJob, UFM, merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. J'annonce d'ailleurs qu'à partir de ces mois, nous aurons un spécialiste en recrutement qui viendra en chaque fin de mois parler des questions que vous nous envoyez sur les sujets du recrutement dans notre pays. Un spécialiste qui viendra donc répondre à toutes ces questions. Et pour la semaine prochaine, déjà, il viendra répondre à la question de comment maximiser ses chances d'être retenu, recruté dans les entreprises dans notre pays. Donc, tenez-vous prêts. Il viendra répondre à toutes ces questions. Merci.
De fournir une passerelle entre l'employeur et l'employé, la UFM vous propose tous les mardis
de 19h05
la YouJob. Un débat sur le sujet lié à l'emploi, des offres d'emploi et même des conseils.